Tous, vous allez bien? Soyez les bienvenus ce matin, que vous soyez de passage, de visite, que vous venez de près et de loin, soyez tous les bienvenus. On vous salue aussi, on le fait de temps en temps, c'est un moment qu'on n'a pas fait. Saluez tous ceux, tous les amis qui nous suivent sur Internet et qui suivent les messages. Nous avons francophones du monde entier. De temps en temps, nous avons des nouvelles pour nous dire on est de l'autre côté du globe. Et on vous écoute sur Internet et ça fait chaud au cœur. Donc, on compte un peu de nos amis et nos frères et sœurs qui nous écoutent de partout. Et on dit un seul et un jour que Dieu vous bénisse. Je vais écrire un autre message ce matin, mais nous sommes, vous le savez, dans une saison un peu difficile pour l'Église, puisqu'il y a eu quelques décès, il y a eu des deuils, il y a eu des souffrances et des douleurs. Et j'ai été conduit encore cette semaine dans la prière à réfléchir et à vous proposer un thème qui, ce matin, s'appelle « Au-delà de nos souffrances ». Et en réfléchissant à la souffrance, on peut se poser la question de comment Jésus a-t-il géré la souffrance? Comment a-t-il vécu la souffrance? Puisque la Bible nous dit qu'il était comme de douleur, habitué à la souffrance. C'est le prophète Isaïe, cette souffle en même de sa naissance qui nous déclare les douleurs avec précision. On en parlera un petit peu dans un moment. Et je me suis posé la question, mais comment Jésus a-t-il géré la souffrance? Comment a-t-il réagi? Parce que c'est souvent cela qui se passe pour chacun d'entre nous, quand les pensées se bousculent dans notre tête et que nous n'avons pas de réponse à nos questions. Et puis, quand on se pose la question, mais quand est-ce que viendra le bout du tunnel? Quand est-ce que je vais en sortir? Et comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Que pouvons-nous faire? Alors, la Bible nous apprend que Christ, lui aussi, a souffert. Et nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. Nous savons, en tant que chrétiens, que Christ est notre modèle, il est notre exemple, mais il est aussi dans sa manière de vivre la souffrance et de gérer la souffrance. C'est ce que je vous propose ce matin de voir ensemble. Jésus nous montre comment nous pouvons traverser les pires moments de notre vie. C'est parce que vous vivez des choses difficiles en ce moment, mais certains d'entre vous, alors que vous m'écoutez, vous êtes en train de traverser les pires moments de votre vie. Alors, que faire? Comment vivre ces choses? Les pires moments de la vie de Jésus étaient probablement ces moments qui entouraient sa mort. Ce fameux vendredi. Il y a eu des moments terribles. La Bible dit qu'il y a eu des temps d'angoisse, des temps de détresse, des temps de tristesse. Et la question que je me pose, c'est comment Jésus a-t-il géré? Parce que Jésus était parfaitement Dieu, mais il était aussi parfaitement homme. Et Jésus, dans son humanité, a connu ce que nous connaissons. Il s'est incarné, nous dit la Bible. Il est venu sur la terre, comme l'a rappelé tout à l'heure Philippe dans sa prière. Il a marché sur la terre. Il a vécu comme les hommes. Il a eu faim, il a eu soif. Il a pleuré. Comment Jésus a-t-il traversé ces moments? Et comment pouvons-nous traverser des moments difficiles quand tout s'effondre, quand tout s'écroule, quand c'est le chaos, la confusion? Et puis que tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Jésus nous enseigne par son exemple comment passer du chaos, de la confusion, de la détresse à la confiance. Et maintenant, en sortant de ce prix, il faudrait que nous puissions gagner en confiance en celui qui ne nous abandonne jamais. Et dans ces moments terribles, on se pose des questions. Par exemple, on se dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Que dire? Comment agir? Que peut-il penser? Que dois-je croire? Comment prier? Comment rester fidèle?
Et comment continuer?
Comment soutenir ma famille alors que je suis moi-même ébranlé dans ma foi? Une autre question, comment sortir de ce chaos et de cette confusion? Je ne comprends pas ce qui m'arrive à vivre. Et jamais je voudrais plus vivre par les moments. Je ne contrôle plus rien. Ça vous est arrivé? Ça arrive peut-être à certains. Comment faire pour transformer ma confusion, ma détresse en confiance? Je dis que vous avez un pasteur qui est un ami, a écrit plusieurs livres, et entre autres ce livre intitulé « La souffrance peut devenir féconde ». C'est un livre qui pose la question suivante, comment gérer la souffrance, quel en est le sens, un chrétien doit-il souffrir? C'est une étude très bien documentée sur la souffrance à la lumière de la Bible, et il décrit les divers traumatismes qui peuvent nous atteindre et qui peuvent nous toucher une vie, et il donne des pistes pour se relever et recommencer à porter du soutien. Ce matin, j'aimerais t'encourager à te dire que tu peux te relever, tu peux traverser ce moment difficile et tu peux encore porter du soutien. Et ce qui était destiné à t'enfoncer et à te détruire peut devenir une source féconde pour toi. Alors, la journée la plus sombre de toute l'histoire de l'humanité, c'est sans aucun doute le vendredi. Sans aucun doute. Un jour d'obscurité, un jour d'angoisse, un jour de détresse. Et peut-être que pour quelqu'un parmi nous, aujourd'hui, c'est vendredi. Alors, bonne nouvelle. Après le vendredi, il y a le dimanche de Pâques. Courage, confiance. Si le vendredi, il y aura une perspective de dimanche. La première lettre de Pierre au chapitre 2, ça va être notre texte de support pour ce message. 1 Pierre 2, verset 21, nous dit ceci, « De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez sa trace. » Il nous a laissé l'exemple afin que nous suivions sa trace. Jésus est donc notre modèle pour toutes choses, y compris dans sa façon de traverser, de vivre et de gérer la souffrance. Hébreux chapitre 2, verset 18 nous dit, en effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il était tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. C'est vrai que le verbe tenter ici peut aussi se traduire mille épreuves. Passer un temps d'épreuve, traverser une épreuve. Hébreux chapitre 4, verset 15. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous. Il a été poussé dans l'épreuve en tout point. Il a traversé l'épreuve comme nous pourrons le connaître la traversée. Jésus a souffert physiquement, Matthieu chapitre 26. Jésus a souffert psychologiquement, émotionnellement, Marc chapitre 14, et Jésus a souffert spirituellement, Luc chapitre 22 et Jean chapitre 19. Peut-être avez-vous encore en mémoire le film La Passion du Christ de Mel Gibson, qui a passé plusieurs semaines sur les écrans, et malgré quelques libertés dans le scénario, Mel Gibson s'est quand même entouré de scientifiques et d'historiens pour essayer de nous faire revivre les souffrances de Jésus. La crucifixion était une forme de torture absolument abominable. Et les évangiles nous disent que Christ a été frappé. On lui a donné des coups de poing. Et ceux qui frappaient Jésus étaient formés à la torture. Et l'idée, c'était de faire souffrir le plus possible. Il a été fouetté. Et ce fouet, comme on le voit dans le film de Mel Gibson, ce n'était pas un fouet de cirque, mais c'était un instrument de torture, fait de plusieurs lumières, au bout desquelles il y avait des morceaux de pierre, des morceaux de verre. Et chaque coup devait lacérer la peau et déchirer la chair, laissant celui qui était ainsi fouetté complètement en bronze. est beaucoup mortel, rien qu'à la torture du fouet. La Bible dit qu'il a souffert en toute chose. Il est donc à même de pouvoir le comprendre. Et vous souffrez peut-être en ce moment, physiquement. Vous souffrez peut-être d'arthrose, d'arthrite, de diabète, de maladie, peut-être du cancer, peut-être d'un handicap. Jésus a souffert physiquement. Et nous devons rejoindre dans nos douleurs physiques. Tout ce qui est important, frères et sœurs, pour le dire ce matin, Jésus a souffert physiquement. Et voilà pourquoi il est capable de nous rejoindre dans nos douleurs physiques et dans notre santé d'établir. Mais il a également subi des douleurs psychologiques, morales, émotionnelles. Jésus, de son humanité, a souffert l'injustice. Lui, le parfait, l'irréprochable, l'innocent, a été traité comme un brigand. D'ailleurs, il est mort entre deux brigands. Lorraine Cunningham, le fondateur de mission, Jeunesse en Mission, dit ceci: le plus innocent de tous est devenu coupable pour que le plus coupable de tous puisse devenir innocent. C'est la doctrine de la justification, c'est-à-dire devenir juste de vie, être innocenté à cause de l'œuvre et du sacrifice de Christ. Le plus innocent de tous est devenu coupable pour que le plus coupable de tous puisse devenir innocent. Jésus a été accusé injustement. Vous avez déjà été accusé injustement. Cette semaine, j'ai accueilli un couple, un jeune couple, qui a une affaire florissante. Et parce qu'ils ont une affaire florissante, ils nourrissent autour d'eux une certaine jalousie. Des gens qui sont jaloux se prennent à n'importe quoi. Et ils leur envoyaient des contrôles. Ils contrôlent ce contrôle. Ils me disaient, Michel, non, on ne peut plus. Ce contrôle à répétition, alors que nous sommes plus proches à un couple de l'Assemblée. Un couple de l'épice, irréprochable, dont un témoignage exemplaire subit ce contrôle, ce contrôle. Mais moi, Michel, on est en train de devenir paranoïaque. Accusé injustement. Vous souffrez de l'injustice, peut-être de la part de votre conjoint, au travail, peut-être de votre entourage, vos enfants, votre famille. Nous avons des familles ici qui ont subi des choses difficiles de nous voir. Certaines même ont été amenées jusqu'au grand tribunal par leurs propres enfants. C'est terrible d'être accusé comme un juste. Jésus a eu droit à 6 fois procès. 6 fois procès. Avec une justice expédiée, quand on sait que ça a été vraiment conduit de manière rapide. Matthieu 26, aussi dit par exemple qu'ils ont cherché des faux témoins, et ils ont trouvé. Ils ont cherché de faux témoins pour l'accuser, et plusieurs se sont présentés. Jésus a vécu la justice. Non seulement cela, il a été abandonné. Matthieu 26, 56, alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Certains parmi nous ont été abandonnés par leur père, leur mère, leur famille, leur conjoint, leurs enfants. Et d'autres étaient difficiles. Ésaïe 53, verset 3, cette parole prophétique concernant Jésus dit ceci: méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. La version originale dit ceci: sachant ce que c'est que la souffrance. Sachant ce que c'est que la souffrance. Jésus a été trahi. Il a vécu la trahison de ses plus proches. Et c'est sans doute ce qui nous fait le plus souffrir, ceux qui sont le plus proches de nous. Et d'ailleurs, il y a une image. C'est caractéristique quand quelqu'un nous trahit, on dit que c'est un coup de poignard dans le dos. C'est une image. Il a été trahi par Pierre, ou plus intime. Vous savez que Jésus avait 12 disciples. Parmi les 12, il y en avait 3 qui étaient encore plus intimes. Et parmi les 3, il y avait Pierre. Et 3 fois plus vite, Pierre va dire, alors qu'il a vécu 3 ans et demi avec Jésus, « Ah non, 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 je ne le connais pas. De loin, tu te trompes. Je ne sais pas qui est cet homme. » C'est dur. Et puis la troisième fois, il s'en va et il y a ce regard vers Jésus. Et la Bible dit qu'il a pleuré amèrement. C'est terrible. Dans ce moment où Jésus a eu besoin de soutien, il est allé. Puis, parlons pas de Judas. Jésus est affecté émotionnellement par cette trahison, mais aussi par l'humiliation qu'on lui a fait subir. Il s'est retrouvé dénudé sur la croix, exposé en public. Et là, je pense à celles et ceux qui sont victimes de harcèlement et d'abus, à ceux qu'on a humiliés en public, à l'école, et parfois dans des lieux dédiés à la religion. Terrible. Jésus avait quand même déchirement. Et sur la croix, il est en face de sa mère. Et déjà, prophétiquement, au moment de la venue de Jésus, le vieux Siméon, qui était un homme pieux, arrive au temple et en portant Jésus, il dira à Marie, une toute transpiration. Et là, devant la croix, Marie est poussée, frappée de plein cœur. Jésus n'est pas insensible à cette douleur, puisque dans son humanité, il était proche de sa mère. Jésus souffre non seulement physiquement, non seulement émotionnellement, psychologiquement, moralement, il a souffert aussi spirituellement. Lui qui avait toujours été en parfaite communion avec le Père et le Saint-Esprit se trouve sur la croix séparé de son Père, séparé du Saint-Esprit. Mon Dieu, dira-t-il, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, pour quelqu'un qui a souffert, c'est bien lui. Vous connaissez peut-être cette théologie, la théologie de la substitution, comme Jésus sur la croix portait le péché du monde entier. 1 Pierre 2, 24 dit, lui qui a porté lui-même le péché dans son corps à la croix, afin de libérer du péché, nous vivions pour la justice. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, nous méritons d'être là à cette place. Nous méritons la mort. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et Jésus sur la croix a pris ma place et ta place. Il s'est substitué, il a pris notre place. Et prendre celui, le châtiment qui nous était destiné à cause de notre péché. Et c'est à cause du sacrifice de Jésus que nous pouvons être pardonnés, que nous pouvons être sauvés, que nous pouvons être réconciliés avec Dieu, que nous pouvons être justifiés, c'est-à-dire que Dieu nous rend innocents devant Dieu. Le sang de Jésus, on lui prie le sang de Jésus, qui purifie, qui pardonne, qui lave et qui nous introduit dans la vie éternelle. C'est accessible. Le ciel est ouvert ce matin. Christ a donc pris notre place sur la croix. Il est devenu péché. Et pour lui, c'était le moment le plus sombre, le plus terrible. Avec l'angoisse et tout ce que cela représente de ténèbres. D'ailleurs, le ciel s'est chargé de nuages, il y a eu les tonnerres, il y a eu de l'orage, il y a eu de la pluie. Tout le ciel s'est mis en accord et au diapason de cette heure sombre. Et 2 Corinthiens 5 dira en verset 21, celui qui n'a pas connu le péché, qui était innocent, il l'a fait devenir péché pour nous. Afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Et parce qu'il a souffert, il sait tout ce que nous traversons et tout ce que nous pouvons vivre. Il peut te guider. Il peut t'aider à traverser ta souffrance. Il t'accompagne dans tes détresses et dans tes angoisses. Il te voit, il te connaît. Il n'est pas silencieux et épouvantable. Jésus est touché par ce qui nous touche. Il est ému par ce qui nous émeut. Et Dans l'Évangile, on apprend justement que Jésus était souvent ému de compassion. Alors, ce qui nous intéresse ce matin, c'est de savoir au fond de comment a-t-il vécu ce moment, comment a-t-il traversé ces heures sombres de sa vie. Qu'a-t-il fait et que nous appelle-t-il à faire? Alors, la première chose que je vois, on va le lire ensemble dans Matthieu 26, verset 36. On va d'abord lire le texte et puis dégager quelques enseignements. Matthieu 26, 36. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémani. Il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. La première chose qu'il fait, c'est qu'il s'est approché de ses amis. Lui, le Fils de Dieu, le Tout-Puissant, est avec ses proches. Alors, Jésus n'est pas un martyr, il est en mission. C'est tout à fait différent. Il est en mission. Et il dit à ses disciples, à ses proches, restez avec moi, priez avec moi, veillez avec moi. Au début de son ministère, Jésus rassemble ses amis, qui vont devenir ses disciples, qui vont devenir des apôtres, des envoyés. Et à la fin de sa vie, il rassemble encore les disciples, ses proches, ses amis, pour les avoir avec lui.
Notre nature nous pousse à faire exactement le contraire.
C'est pas vrai? Quand on souffre, on a envie de se cacher, on n'a envie de voir personne, on a envie de s'isoler, de se replier sur soi et de se refermer sur soi-même. Ce n'est pas ce que Jésus fait. Au moment le plus sombre de sa vie, il est avec ses disciples, et avec ses proches, avec ses intimes, avec ses amis. Avez-vous des amis pour vivre et traverser ces moments difficiles? Je vous encourage à ne pas vous retirer, à ne pas vous isoler, mais à vous entourer. Le Jésus qui calme les tempêtes, qui guérisse les malades, qui ressuscitait les morts, qui nourrissait les foules, dans ce moment d'humanité, rassemble ses amis, ses proches. Alors, ils n'étaient pas partout, ça c'est bien certain, mais ils étaient là, au moment où il en avait le plus besoin. Et quand vous êtes dans la souffrance, dans la tristesse, dans le désarroi, il est important d'avoir des amis, des proches, des intimes. Choisissez bien vos amis. Choisissez bien vos amis. Et dans la douleur et dans la détresse, vous allez voir qui sont vraiment vos amis. Choisissez bien vos amis. Certains vont se découvrir comme de véritables amis. Certains que vous ne connaissez pas jusque-là, on peut tout d'un coup. L'effet de la douleur et de la souffrance que vous êtes en train de vivre, ils vont se réveiller. D'autres vont s'éloigner. Les disciples ici, ils se sont endormis. Mais ils étaient quand même connectés. Proverbe 17, 17, 17 dit l'ami aime en tout temps, m'a descendu en toutes circonstances, et dans le malheur, il se montre un frère. Une première chose, c'est que Jésus est avec les disciples. Il s'approche, il est proche, il a besoin de ses amis. Nous avons besoin d'amitié, d'amitié fidèle, solidaire, des frères autour de nous. Et il y a dans l'Église des amis, des frères, des soeurs. Et je remercie Vanessa de nous avoir fait prier les uns avec les autres. C'est quand on a besoin de prière, on a besoin parfois rien que de poser la main sur l'épaule de quelqu'un. Si vous saviez le bien que ça peut faire. Avec Evelyne, nous avons traversé des moments difficiles. Avant d'avoir notre aîné, maintenant, nous avons un autre enfant que nous avons perdu. C'est une période difficile, ça remonte à quelques dizaines d'années maintenant, mais c'était difficile et douloureux. dans ce moment, je me souviens qu'en fait, c'est un petit de moi. Il avait mis juste sa main sur mon épaule. Et ça a été pour moi une bouffée d'oxygène, un moment rafraîchissant et bienfaisant. Parce que je savais que ce frère-là allait prier, et le fait de mettre la main, c'est notre demande qu'il traverse. On n'a pas toutes les solutions, on n'a pas toutes les réponses. On n'a pas tout le plan de Dieu. On ne sait pas comment les choses vont évoluer. Mais il y a une chose qu'on peut faire, c'est mettre sa main sur l'épaule de mon frère, sur l'épaule de mon frère. Je suis avec toi. Je suis à tes côtés. Je ne sais pas ce que tu veux. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais il est là. Les amis sont là. Les amis sont là. Et on est à dire qu'on est frères et sœurs en Jésus-Christ. Parce que celui qui nous unit, c'est le Christ. Nous sommes de la même famille et nous sommes liés à cause du sang de Jésus, à cause du sacrifice de Christ. Il y a cet esprit d'unité qui est créé par le Saint-Esprit. C'est pour nous qui la créons, cette unité. Elle vient de Dieu. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Oui, la douleur est un révélateur. Elle montre qui sont dans nos âmes. Puis la deuxième chose, c'est que Jésus a été authentique. Matthieu 26, 38, mon âme est prise à mourir. Restez éveillés avec moi. Il n'a pas mis de masque, il n'a pas joué à faire semblant, mais il s'est exposé. Il s'est rendu vulnérable. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste à mourir. Parce que c'est bien d'avoir des amis. Mais si tu n'es pas authentique, tu ne vivras pas bien. Ta relation ne sera limitée. Et en fait, on ne peut être aidé que dans la mesure où on se rend, si on suit, on se rend accessible. Vous voyez ce que je veux dire? On peut être aidé, on peut être soutenu et vraiment encouragé que dans la mesure où on ouvre son cœur. Jésus a ouvert son cœur. Il s'est rendu accessible. Est-ce que tu es accessible? Est-ce qu'on peut voir dans ta vie? Il était authentique. En fait, c'est comme s'il disait, voici ce que je suis en train de vivre en ce moment. Je suis triste, je suis angoissé, je suis dans une détresse intérieure. Mon âme est triste, à mourir. C'est ce qu'il vivait effectivement en ce moment. Un moment d'angoisse. Pas de masque, pas de cliché, pas de recette, pas de réponse toute faite. Je suis triste. Être authentique. Alors, être authentique, et je vous encourage à être authentique, tout en restant dans l'équilibre. On peut partager sa douleur sans y revenir sans cesse et sans cesse. On peut l'exprimer sans s'y enliser. Vous voyez ce que je veux dire? On peut la révéler sans se laisser paralyser ou prisonner ou emprisonner. Être authentique, mais avoir le désir aussi d'avancer, de se relever, de progresser et d'avoir des fruits dans ton témoignage. Celui qui est vrai, celui qui est sincère avec Dieu, celui qui est sincère avec les autres et avec soi-même, voilà ce que je pense. Celui qui est sincère avec lui-même, avec Dieu et avec les autres, il va entendre. Il va entendre une voix qui va lui dire « Ne te laisse pas priver, ne te laisse pas emprisonner par ta souffrance, ne te laisse pas enfermer dans ta souffrance, parce que je suis avec toi. » Il y a une vendredi, mais il y a une dimanche. Il y a une crucifixion, mais il y a une résurrection. Pour chacun d'entre nous, tôt ou tard, nous mettons le sol de notre vie, mais il y aura une dimanche. Il y a la réalité du moment, c'est vrai, mais il y a la promesse d'un jour nouveau, un jour de lumière, un jour d'ensoleillé, un jour pour briller. La Bible dira en Galates 6, 2, portez le fardeau les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. comment faire pour suivre les traces de Jésus? Eh bien, faisons ce que portez les fardeaux les uns des autres et vous suivrez les traces de Christ. Vous vivrez à l'exemple de Christ. Alors, est-ce que tu es un chrétien qui fait poser des fardeaux aux autres ou est-ce que tu es un chrétien qui porte avec les autres? Est-ce que tu écrases les autres ou est-ce que tu encourages les autres? Et la douleur, la souffrance, l'épreuve que nous traversons peut être une excellente occasion de porter les fardeaux les uns les autres et de s'ouvrir les uns aux autres pour porter les fardeaux. Comment est-ce qu'on fait pour traverser le pire moment de la vie? Un pasteur qui a traversé quelque chose de douloureux, pasteur Rick Warren, à partir d'une grande église, et son fils, il est mort dans des circonstances atroces et dramatiques. Et Rick Warren a, entre autres, un ami qui s'appelle Eddie Wiesel. Eddie Wiesel est très connu, il a écrit un certain nombre d'ouvrages. Il a connu aussi le camp de concentration. Et 31 membres de sa famille sont décédés dans les camps. C'est juste pour donner l'idée du degré de souffrance que cet homme a traversé dans sa vie. Et un jour, le pasteur Rick Warren se trouvait justement avec Eddie Wiesel, qui est son ami. Et Rick Warren venait de traverser toute cette épreuve et il pose la question, il dit, comment est-ce qu'on fait pour se dire, comment est-ce qu'on fait pour traverser, comment est-ce qu'on fait pour continuer après une telle épreuve? Vous savez ce qu'a répondu Eddie Wiesel, il a dit, il faut le dire. Dieu est Dieu et les autres. Posons une main sur lui. Ce matin, nous avons Dieu. 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 Et puis, troisième piste, Jésus a fait appel à son Père. Parce que ses amis se sont endormis, ils étaient quand même là, ils étaient liés, heureusement. Et d'ailleurs, Jésus ne leur en veut pas. Dans le texte est assez intéressant, il ne les culpabilise pas. Mais il semble que cette scène nous rappelle tout simplement nos limites humaines. Peut-être que le rythme de croisière avec Jésus n'était pas facile. Le texte nous dit qu'il y avait beaucoup d'allants et de venants, on n'avait pas même le temps de manger, ni l'heure de dormir. Ça allait, c'était pas qu'ils ne connaissaient pas encore les 35 heures de travail dans la semaine. Vous n'avez pas entendu parler de ça. Avec Jésus, c'était un rythme soutenu. Et les textes, les différents textes, vous prenez tous les évangiles, vous avez une vue d'ensemble qui vous montre qu'ils étaient fatigués et qu'ils étaient tristes aussi à cause des circonstances. Cette scène, je crois, nous rappelle les limites humaines. Il s'est tourné vers celui, alors les limites. Et il se tournait à ce moment-là avec celui qui est illimité, illimité dans son père. Illimité. Et quand je parle de ce mot illimité, je pense toujours à l'ambition. Et avec la première paye, il dit papa, on va aller à Décathlon. On va aller t'acheter une paille à plaisir. Qui sait que j'aime la pêche. Le vendeur approche et lui était tout fier. Et le vendeur lui dit, mais quel est votre budget? Et mon fils lui dit, budget illimité. Wow. Budget illimité. Ce matin, le Dieu illimité est au milieu de nous. Au milieu de nous. Au milieu de nous. Alors, il se tourne vers son père. Et je crois que nous aussi, nous devons suivre cette trace et nous devons nous tourner vers notre père. Il Je dis Marc au chapitre 14, pour avoir une vue d'ensemble, c'est important de lire tous les évangiles. Et là, dans Marc au chapitre 14, verset 35, nous disons, il disait, Abba, Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il commence en disant, Abba, Père. Alors, c'est une expression araméenne. Araméenne, c'est un langage parlé en hébreu, une variante de l'hébreu, et qui veut dire à peu près ceci, papa. Papa. Nos frères et sœurs africains savent ce dont on parle, papa. Très souvent dans la prière, il le dit. Mais ça, ça veut dire papa. Alors, ce n'est pas une prière sophistiquée, bien construite, avec de belles formulations. Non, non. Abba. Papa. Et dans la souffrance, ce n'est pas le moment de s'embarrasser de belles formulations. On va être au bout. On est au cœur de la situation. On dit papa. Il répond son âme. Il a en fait un cœur à cœur avec son Dieu. La deuxième chose qu'on peut noter ici, c'est que Jésus affirme la grandeur et la puissance de Dieu. Toutes choses te sont possibles. Dieu peut tout. Rien n'est impossible à Dieu. C'est ce qu'il dit dans sa prière. Toutes choses sont possibles. C'est une affirmation de l'omnipotence, de la toute-puissance de Dieu. Alors, tu peux prier, Dieu, non pas pour rappeler à Dieu qui il est, mais pour te le rappeler à toi. C'est nous qui avons besoin de nous rappeler que Dieu est tout-puissant. Seigneur, j'ai la certitude que tout est possible. Qu'il ne m'arrive que ce que tu permets et que rien n'est en dehors de ton contrôle. C'est ça que j'ai besoin de dire. Et puis, troisième piste, c'est que Jésus exprime son désir. Éloigne de moi cette coupe. On peut dire ce qu'on veut. Oui, mais Jésus était Dieu aussi. Mais il savait déjà qu'il allait ressusciter, qu'il sortirait de la tombe. Oui, bien sûr. Mais en ce moment même, il était pleinement homme. Tout en étant Dieu. Il vivait un temps d'angoisse, de détresse et de souffrance. Dans son humanité, rappelons-le encore une fois, il a vraiment souffert. Il a exprimé son désir, il a été précis dans sa prière. Soyons précis dans notre prière. Seigneur, je te prie pour mon santé, Seigneur, je te prie pour mon fils, Seigneur, je te prie pour mon fils, je te prie pour mon conjoint, à trouver la santé de mes parents, Seigneur, je te prie. Soyons précis et présentons à Dieu une prière précise. Je termine en vous disant que Jésus déclare sa confiance en le plan de Dieu. Toutefois, comme l'a rappelé le pasteur de Montpierre la semaine dernière, tout pour toi, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est-à-dire que Jésus a confiance dans le plan de Dieu pour lui. Et nous voulons avoir aussi cet action de confiance en disant, après avoir dépensé notre cœur, après avoir laissé cœur à cœur avec Dieu, après avoir été précis dans le Seigneur, non plus, j'ai confiance que ce que tu as fait, tu le feras, que tout est possible, Seigneur, tu es grand, tu es puissant. Et je déclare ma confiance dans le plan de Dieu. Tu ne te trompes jamais. Tu ne seras pas en retard. J'ai confiance en toi. Il y a un texte qui m'a été donné il y a quelques jours, et je vous le laisse aussi parce que ça m'a fait du bien. Je pense qu'il peut aussi vous faire du bien. C'est le psaume 138, le verset 8. Dans ma méditation, vous savez comment. On peut vivre cette méditation tout d'un coup, et un verset qui ressent de manière forte. Voilà ce verset, c'est celui de Psaume 138, verset 8. L'Éternel terminera ce qu'il a commencé pour moi. Je vous le laisse. L'Éternel terminera ce qu'il a commencé pour moi, pour toi. Amen. Prions sur le Seigneur. Peut-être pouvons-nous nous lever à notre place. Nous avons notre confiance ce matin. faire comme Jésus, suivre les traces de Jésus. Lui, il a souffert, lui, il me souffre. Il a été dans la détresse, dans l'angoisse. Lui, nous connaissons les temps difficiles. Peut-être certains que c'est le pire moment de ma vie. C'est vrai, Seigneur, nous sommes là dans une pleine réalité. Nous ne voulons pas nous cacher. Nous ne voulons pas porter de masques ou de faux semblants. Et lui, avec de recettes, mais nous sommes là, Seigneur, dans toute sincérité. Nous prions, Seigneur, fais-nous grâce dans ce moment de détresse intérieure, dans cette souffrance physique, dans cette souffrance morale, émotionnelle, psychologique, dans cette souffrance spirituelle. Seigneur, nous nous tournons vers toi, nous te disons, Papa, Papa, voilà, Seigneur, ma détresse, voilà mon cœur, voilà ma situation. Oh, Papa, toutes choses sont possibles. Oh, je confesse ta grandeur, je confesse ta toute puissance. Il est possible d'avoir une situation, d'avoir une solution, d'avoir une réponse, un exaucement. Seigneur, si c'est possible, tu vois mon désir, tu vois mes demandes. Alors, Seigneur, je te la présente. Toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse dans ma vie. Au nom de Jésus, et tout le monde dit Amen. Amen. Amen.